Radio G 101.5 FM.
Sous les jupes des films.
Une émission pour cinéphiles compulsifs de Julien Védrenne.
Played one, sir. For all time's sake.
Sarah Connor.
My name is Bond. James Bond.
Vodka? Don't you use olives? Perfect. Cheers.
Cheers.
Amateur de comédie sur fond de western crépusculaire et de catastrophes naturelles, mais néanmoins auditeur de Radio G, bonjour. Bienvenue dans l'émission qui donne envie de revoir les films que vous n'avez pas encore vus. Imaginez John Wayne au sommet de sa gloire. Lui, c'est un cow-boy, un vrai éleveur de bétail dans la Montana. Il vient récupérer $500 en or qu'un de ses hommes a joué et perdu dans un casino de San Francisco. Nous sommes en 1906, ce qui a son importance. Et à l'Eldorado, la star, c'est Anne Vorak. Elle chante une ritournelle sur les grands yeux bleus qu'elle affectionne plus particulièrement. La belle de San Francisco, c'est maintenant.
Ce refrain bercé, soit que tu le trouves tendre ou refusé de l'entendre. Qu'il te plaise.
Alors, il faut imaginer ce diable de John Wayne avec son Stetson sur la tête, les bottes de cow-boy abandonnées quelque part, les pantalons retroussés au niveau des genoux, en train de faire des ricochets avec des galets dans le Pacifique, pendant qu'Anne Dvorak s'amène en calèche derrière lui. La première scène du film de Joseph Kane est irréaliste et plante un certain décor. Le spectateur comprend qu'il n'est pas confronté à un western fordien avec de grandes thématiques. Ici, le film va être plus léger et le duel tant attendu va être entre John Wayne et Anne Vorak sous l'arbitrage du mésestimé Joseph Shilcroft. La trame est simple à souhait. John Wayne débarque pour récupérer $500 en or qu'un de ses hommes a joué dans un des nombreux casinos de la ville. John Wayne va à la fois tomber amoureux d'Anne Vorak et du jeu. Il va donc mettre toutes ses économies dans un luxueux casino avant que le tremblement de terre du mercredi 18 avril 1906 vienne rebattre de nombreuses cartes, dont celle des élections municipales. Alors, John Wayne, tout le monde ou presque le connaît et se rappelle sa dernière période avec ses jeans trop courts et ses idées républicaines. Ce que l'on retient surtout, c'est sa voix, sa diction, sa profondeur et cet œil qui l'anime. Dans ce film, au scénario aussi léger que la tonalité, on découvre le John Wayne du grand McClintock, celui capable de dresser les plus formidables mégères apprivoisées. Seulement, en face, il y a Anne Vorak. Véritable star des années 1930, Anne Vorak endosse ici le costume d'un personnage taillé sur mesure, celui d'une femme indépendante au milieu d'un monde d'hommes. Patrick Brion aura beau dire dans un bonus que John Wayne est sous-exploité au regard de son talent, le personnage principal de ce film, c'est elle. Et John Wayne n'est qu'un faire-valoir. Ce dont il s'accommode, il faut bien le dire respectueusement. Anne Vorak, c'est la femme dans Scarface d'Howard Hawks. C'est surtout l'actrice qui s'émancipe des majors du cinéma américain pour mener sa propre carrière dans les années 1940. Habituée des comédies sentimentales, elle laisse éclater son talent, que ce soit comme chanteuse dans un casino dans La Belle de San Francisco ou entraîneuse dans un saloon dans Règlement de compte à Abbey Lane. Deux films qu'elle tourne coup sur coup. Elle mettra un terme de façon prématurée à sa carrière et finira dans l'oubli, même si elle aura, récompense mineure, son étoile sur le Hall of Fame. mais dans le western plus qu'ailleurs, le triangle amoureux est de mise. Et là, pas d'opposition entre une femme brune ou rousse et une femme blonde et un grand ténébreux. Le triangle est inversé, signe de l'importance dans ce film de la femme. C'est Joseph Schildkraut qui s'y colle honorablement dans tous les sens du terme. On n'arrive pas trop à le situer. C'est un voyou de la pire espèce, rejeté par sa famille, qui gère l'Eldorado et qui gagne sa vie avec des roulettes et des parties de poker truquées. C'est aussi un homme au grand cœur, amoureux fou d'Anne Dvorak, et qui finira par montrer une galanterie à l'égal de celle de Claude Rains dans Casablanca. Je reviens après un petit intermède, là encore musical.
Lace Park, scene dark.
Silvery moon is shining through the trees.
Cast to me, you.
Sound of kisses floating on the breeze.
Act one, begun.
Dialogue, where would you like to spoon?
My cue with you underneath the silvery moon. By the light.
Il faut bien le dire, malgré les deux têtes d'affiche que sont John Wayne et Anne Dvorak, le film de Joseph Kane est une honnête série B. Le réalisateur n'a jamais eu affaire à un tel casting auparavant et il n'en aura jamais un tel après. Réalisateur prolifique, il dirigera néanmoins quelques stars du moment comme Fred MacMurray et Barbara Stanwyck dans des films de genre. Assurément, il est cependant plus à l'aise au violoncelle, instrument auquel il avait dédié sa première carrière. Dans La Belle de San Francisco, le point d'orgue du film est incontestablement le séisme qui s'abat sur la ville au moment de l'inauguration du casino de John Wayne et qui donne au film un petit air de fin d'empire romain avec des colonnes qui s'effondrent et des lustres qui s'abîment, à ne surtout pas comparer avec les scènes de San Francisco avec Clark Gable tourné 9 ans plus tôt qui lui est un film catastrophe. Surtout, Anne Dvorak se retrouve sous les décombres et est paralysée des jambes. Mais on se doute bien alors qu'elle en retrouvera l'usage pour se jeter dans les bras de John Wayne.
Mais Julien, qu'y a-t-il sous les jupes de ce film ?
Eh bien Alice, sous la jupe de ce film, il y a la place de la femme dans un monde d'hommes. C'est un thème malheureusement toujours autant d'actualité. On notera qu'ici, deux hommes se battent pour l'avoir. Mais s'ils pensent qu'ils mènent l'orchestre, ils se plantent de partition dans toutes les largeurs. À plusieurs reprises, Anne Dvorak leur donne des coups de baguette. Tout d'abord avec ses baisers dont elle réserve les plus passionnés à la personne qu'elle aime. Ensuite, avec un maybe terrible quand John Wayne lui demande de l'épouser. Elle a tout compris, et si elle ne prend pas la route habituellement prise par les femmes fatales des films noirs, c'est pour une raison bien simple. Elle veut s'en sortir, mais pas par tous les moyens, et surtout, elle veut s'en sortir vivant. On notera que dans cette même thématique, on repère Butterfly McQueen, qui jouait la servante noire précise dans Autant n'emporte le vent, et qui interrompra sa carrière pendant plus de 30 ans, lasse de jouer des rôles stéréotypés. Les stéréotypes ont en effet la vie dure. La Belle de San Francisco de Joseph Kane, c'est un honnête western crépusculaire sur fond de comédie urbaine avec Anne Dvorak et John Wayne. Et c'est chez Sidonis dans la collection Western de légende. Demain, on se retrouve à Rome avec Willem Dafoe, un artiste pluridisciplinaire, exilé et jaloux, qui confond ce qui est réel et ce qui ne l'est pas.
When I had been pondering many things to myself for a long time, and had for many days been seeking my own self and what my own good was, and what evil was to be avoided, there suddenly spoke to me. What was it? I myself or someone else? Inside or outside me? This is the very thing I would love to know, but don't.
C'était Sous les jupes des films, une production Masque Noir pour Radio G. Musique de générique Toops Baby d'après Alain Souchon, natif de Casablanca.
Sous les jupes des filles, c'est aussi les voix d'Alice Tudou et de Philippe Routier.
To be continued.
Goodbye, Rick. 101.5 FM.
Tendance à me plaire.